Les informations, les Winga.
Au sommaire de ce journal, désertion au sein de la 8e région militaire au Nord Kivu. Sur plusieurs centaines des militaires du bataillon intervention Sake des FRDC envoyés en renfort à Rutshuru, seule une quarantaine de soldats sont restés. Pas de raison de ces désertions pour l'instant. Participation des parents aux charges de fonctionnement des établissements de leurs enfants. Le secrétaire général de l'EPSP tranche. Les parents doivent aussi contribuer. Il s'appuie sur une disposition de la loi cadre de l'EPSP, mais Daniel Lukabana condamne les abus. Des médicaments ainsi que du matériel d'une valeur de 20 000 $ américains pour les victimes des violences sexuelles au Maniema. Geste signé, Fonds des Nations Unies pour la population, appuyé par le Royaume de Belgique. Bonjour à tous. La 8e région militaire secouée par des mouvements de désertion au Nord Kivu. D'après de sources de cette 8e région, il s'agit essentiellement de plusieurs centaines de militaires du bataillon intervention de Sake à 27 km de Goma. Une partie de ce bataillon avait été envoyée en renfort la semaine dernière à Rutshuru pour déloger les insurgés de la 83e et ceux de l'ex-12e brigade. Pas d'explication pour l'instant sur les causes de ces désertions de Goma. Une correspondance de Gisèle Cage.
Selon des sources proches de la 8e région militaire, ces désertions ont eu lieu lundi soir et mardi dans la journée. Plusieurs éléments du bataillon intervention qui sont allés appuyer la 5e brigade intégrée à Rutshuru ont quitté le rang des FRDC. Sur deux compagnies FRDC de ce bataillon envoyées en renfort à Rutshuru, seule une quarantaine de soldats sont restés loyaux à la 8e région militaire. Les déserteurs auraient pris la direction de Tongo, une des localités qui avait été prise la semaine dernière par des insurgés de la 83e et ex-12e brigade, mais qui ont été ensuite délogés par les éléments loyalistes FRDC. Toujours selon des sources de la 8e région militaire, le mouvement de désertion touche aussi Sake, où ce bataillon est normalement basé. Là, une cinquantaine de militaires seulement seraient restés sur les quelques 600 hommes basés pour assurer la sécurité. Ces derniers se seraient dirigés vers Kichanga, une localité située dans le territoire de Masisi. Pour l'heure, la 8e région militaire ne s'est pas donné les raisons de ces désertions. Gisèle Cage, Goma, Radio Okapi.
Réaction du Comité international d'appui à la transition après l'assassinat des 8 casques bleus guatémaltèques. Le SIAT se dit choqué par ce crime commis lundi matin dans le parc de la Garamba en province orientale. C'est ce qu'indique le communiqué de ce comité d'appui à la transition rendu public hier mercredi. Jacques Matande.
Le SIAT condamne l'assassinat des soldats de la MONUC. Pour cela, il en appelle à tous les États de la région de continuer à œuvrer sur leurs territoires respectifs pour éliminer définitivement la menace que les groupes armés représentent pour les populations civiles qui en sont les principales victimes. Le SIAT demande aussi aux États de la région de Grand Lac de mettre fin à toute forme de soutien ou de complicité dont ces groupes armés pourraient bénéficier. Le SIAT présente par ailleurs ses sincères condoléances aux familles des victimes, à la MONUC et au gouvernement du Guatemala. Il tient à rendre hommage au dévouement et au courage des personnes de la MONUC qui opèrent souvent dans des conditions particulièrement dangereuses à des endroits difficiles pour la protection des populations civiles contre les groupes armés étrangers et congolais. Pour rappel, les 8 casques bleus guatémaltèques de la MONUC tués effectuaient une mission de reconnaissance à la recherche d'éléments présumés ougandais de l'armée de résistance du Seigneur LRA dont la présence avait été signalée dans le secteur. Le communiqué du SIAT précise aussi que 15 morts ont été enregistrés du côté des assaillants.
Et puis, retour progressif des habitants d'Aveba dans leur localité après avoir fui une attaque des miliciens du mouvement des révolutionnaires congolais MCR. Ils avaient quitté cette contrée de l'Ituri depuis le 18 janvier dernier. Ce retour est favorisé par la présence des éléments des FRDC appuyés par les casques bleus pakistanais de la MONUC. Reportage Jacques Moukonkole.
C'est depuis 2 à 3 jours seulement que les habitants d'Aveba ont regagné leur maison abandonnée la semaine dernière. Selon des témoignages recueillis sur place ce mardi, ce retour serait favorisé par la présence des casques bleus de la MONUC qui ont aidé les FRDC à reconquérir les positions qu'ils avaient perdues le 18 janvier dernier. Ce jour-là, une attaque surprise des miliciens du MRC avait contraint les habitants et les FRDC à fuir le village ou à s'y retirer stratégiquement. Aveba ne se remettra pas de sitôt de ces blessures causées par les assaillants. Des cas d'assassinat, de viol et de pillage ont été rapportés à une mission onusienne qui s'est rendue sur place. Au regard de ces atrocités, les habitants d'Aveba ont émis le vœu de voir les casques bleus de la MONUC rester encore longtemps avec eux pour leur sécurité. Mais le commandant des casques bleus pakistanais leur a demandé d'avoir toujours confiance à l'armée de la RDC qui est permanente, car, a-t-il souligné, eux seront appelés un jour à quitter ce milieu. Jacques Moukonkole, Kanish Mukongo, Bounia, Radio Okapi.
Recrudescence de l'insécurité à Badolité. Dernier exemple en date, l'assassinat d'un commerçant. Il a été abattu par deux hommes en uniforme sur la route de Zongo. L'incident se produit dimanche dernier au niveau de la localité de Molenge, à 60 km de cette ville de l'Équateur. Les assassins lui avaient exigé, faute de donner de l'argent, de partager avec eux sa marchandise. Il a été tué pour avoir refusé de satisfaire à la demande de ses bandits. Précision avec Dominique Wolombi.
Jules Mouelé, c'est le nom de ce commerçant de 35 ans, mieux connu à Badolité sous le sobriquet de JKB. Il conduisait un convoi de quatre tolekistes qui transportaient sa marchandise lorsque deux hommes en uniforme, surgis de la brousse, l'ont obligé de s'arrêter. C'était au niveau de la localité Molenge, à 60 km de Zongo. Ils lui ont demandé de l'argent. Après une longue discussion, ils l'ont laissé partir. 3 kilomètres plus loin, il s'est arrêté pour attendre les tolekistes qui venaient derrière avec sa marchandise. Ne les voyant pas arriver, JKB est revenu sur ses pas. C'est alors qu'il va trouver les tolekistes en pleine discussion avec les deux hommes en uniforme qu'il avait arrêtés une heure plus tôt. Ceux-ci vont lui demander cette fois de partager avec eux sa marchandise. Devant sa résistance et ayant reconnu l'un de ses hommes, ils vont l'abattre sur le champ avant de s'évanouir dans la nature. Les tolekistes apeurés ont rebroussé chemin vers Zongo, abandonnant sur place les cadavres et la marchandise qu'ils transportaient. Le corps de JKB n'a dû être ramené à Zongo que le lendemain. De Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio.
Enseignement primaire et secondaire poursuit des concertations entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. La location des frais de fonctionnement, la titularisation des professeurs et la paie des enseignants, le 20 de chaque mois, sont les points qui font l'objet de ce dialogue. Le secrétaire général à l'EPSP l'a annoncé au cours du point de presse qu'il a tenu hier mercredi à Kinshasa. Daniel Lukabana a par ailleurs signifié que malgré la location des frais de fonctionnement accordés par l'État, les parents doivent continuer à contribuer eux aussi à ces frais. Selon lui, cela est conforme à une disposition de la loi cadre de l'EPSP. On l'écoute au micro de René Capita.
La loi dispose que les parents d'élèves ont l'obligation de participer aux charges de fonctionnement des écoles de leurs enfants. Lorsque le gouvernement a mis à la disposition des écoles des subsides de fonctionnement, la conséquence aurait dû être qu'on ne demande plus les frais de fonctionnement aux parents. Alors, le gouvernement, qui connaît la disposition de la loi cadre, a dit « là où parents d'élèves et enseignants sentent le besoin » d'un appoint des parents, ils se mettent ensemble pour s'entendre sur la hauteur et la nature de l'appoint. En raison de cette disposition de la loi qui fait obligation aux parents de participer aux charges de fonctionnement des établissements de leurs enfants, ce qu'il faut déplorer, ce sont les exagérations. Cette ouverture mise à profit par certains cupides pour demander plus que de nécessaire. Ce sont des exceptions malheureuses mais condamnables.
Des chefs d'entreprise de France et de la RDC ensemble pour une coopération renforcée de 2 ans. Nous en voulons pour preuve la signature hier, mercredi à Kinshasa, d'un protocole d'accord de coopération entre le mouvement des entreprises de France, MEDEF, et la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Objet de ce protocole d'accord, aider la FEC à améliorer ses capacités. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président national de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma Moulimbi, au micro de Jean-Claude Toumba Kamanga.
Le MEDEF, qui est une grande institution patronale française, peut nous aider dans non seulement le renforcement des capacités humaines, mais la recherche de financement pour restructurer la fédération. Et c'est dans ce cadre-là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensemble, échanger des informations à caractère économique pour vraiment préparer des investissements sérieux et crédibles au Congo.
C'est tout ce que vous attendiez du MEDEF?
Aujourd'hui, dans le cadre du protocole, c'est ça. Le protocole, c'est un début, on met un cadre. Mais le MEDEF, aujourd'hui, c'est venu pour qu'avec les entreprises d'AFEC, secteur par secteur, voir sont quels secteurs d'investissement. L'après-midi et demain, nous avons des réunions concrètes menant des entreprises dans des tables rondes.
Cette mission, arrivée mardi à Kinshasa, comprend une trentaine de responsables des entreprises de différents secteurs, notamment les mines, la santé et le transport. Cette délégation de MEDEF a rencontré ce même hier mercredi le vice-président de l'ECOFIN, Jean-Pierre Bemba. Elle aura d'autres séances de travail avec l'Agence nationale pour l'investissement, l'ANAPI. Situation tendue hier à la cour d'appel de Matadi, à la base, l'intervention de la police nationale dans le mouvement de grève des magistrats. Ces agents de la justice étaient rendus devant la cour d'appel de Matadi pour empêcher la tenue d'une audience. En réaction, les policiers sont intervenus pour rétablir l'ordre de Matadi. Un récit de Emmanuel Imbandalokenga.
La journée a pourtant démarré dans le calme. Selon le secrétaire général intérimaire du syndicat national des magistrats, Sinamaz Bakongo, les magistrats sont venus empêcher la tenue d'une audience par le premier président de la cour d'appel du chef de la province du Bas-Congo. C'est une suite de l'action similaire de la veille au tribunal de grande instance de Matadi. Les grévistes ont subtilisé le marteau et la cloche et investi la salle d'audience. Toujours selon Patrice Emery Yalébé, c'est alors qu'est intervenue la police pour obliger les grévistes à vider les lieux. Information confirmée par la police présente dans les installations de la cour d'appel qui parle de la protection des installations de la cour. La présence de la police est mal digérée par les magistrats et fait monter la tension d'un cran. En réaction, les magistrats ont déclaré être prêts à l'affrontement et même à leur radiation de la magistrature. Un bras de fer s'ensuit, suivi d'une série de tractations et concertations pour éviter les pires. Résultat, l'annulation de l'audience annoncée par le secrétaire général intérimaire du Sinamac dans le Bas-Congo. Pour le premier président de la cour d'appel de Matadi, Keto Diakanda, la présence de la police n'est pas nécessairement liée au mouvement de grève et la non-tenue de l'audience est due à l'absence des différentes parties dans les affaires du jour. Matadi, Emmanuel Imbandalokenga Lokikimbi, Radio Okapi.
8h12 à Kindu, une tonne des médicaments et des matériels d'une valeur de plus de 20 000 dollars américains pour les victimes des violences sexuelles au Maniema. C'est la première livraison du Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, aux structures sanitaires du Maniema. Ce don, financé par le Royaume de Belgique, va profiter aux victimes des violences sexuelles appartenant à 3 ans de santé sur les 15 que compte la province. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée en présence des autorités du Maniema. Des précisions avec Gabriel Ouamenia.
Ces lots est essentiellement constitué des seringues, des lots distillés, des kits de suture, des lampes d'examen gynécologique, des tambours à 37 cm et autres. Madame Liliane Chiamaka-Kalonji, coordinatrice du projet conjoint.
Nous savons que maintenant, avec les différentes formations, les médecins sont mieux outillés quant à l'utilisation et quant à la mise en pratique des connaissances qu'ils ont acquises lors des formations et qu'ils auront l'occasion de pouvoir les pratiquer en utilisant des matériels adéquats pour pouvoir soigner les victimes de violences sexuelles.
Dans les 3 zones de santé bénéficiaires de ces dons, 9 structures ont été ciblées dans un premier temps par ces projets conjoints de prévention et réponse contre les violences faites aux femmes, aux jeunes et aux enfants. Il s'agit notamment de la zone de santé de Kindu, d'Alungouli et celle de Kailo. Docteur Kasogo Moulamba, médecin inspecteur provincial, appelle les bénéficiaires à une bonne gestion de ces médicaments.
Nous demandons d'en faire bon usage pour que demain, les peines de nos soeurs et femmes puissent être soulagées. Il faut les utiliser en bon père de famille.
Le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP est en train de mobiliser d'autres ressources pour pouvoir couvrir les autres aires de santé de la province du Maniema. Kindu, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Santé toujours, évaluation des activités financées dans la zone de santé de Lualaba par l'UNICEF Katanga pour l'année 2005. L'atelier a eu lieu à Kolwezi à la fin de la semaine dernière. Pour le chef du bureau de l'UNICEF, beaucoup de problèmes se posent encore, tant sur le plan sanitaire, alimentaire qu'éducationnel. Le projet de l'année 2006 prévoit, entre autres, le renforcement de la zone de santé de Lualaba par un personnel qualifié, ainsi que la création de nouvelles écoles. Le chef de bureau de l'UNICEF Katanga parle du constat et des solutions envisagées par son agence. David Delien est interrogé par Madeleine Waila.
La zone de santé de Lualaba, il y a un problème actuellement de personnel qualifié pouvant apporter des soins de qualité aux populations. Dans le domaine de l'éducation, on a parcouru les questions de distance que les enfants doivent marcher pour arriver à l'école. Il y a des enfants qui sont au-delà de 7-8 km. Il y a 19 écoles de la zone de santé de Lualaba, 70 000 la population totale. Toujours est-il que le nombre d'enfants à l'école est encore très faible. On a mis l'accent sur la dimension économique. Ce serait aider la femme à améliorer le disponible alimentaire au sein de la famille et aussi ses revenus. Donc, il y a pas mal d'activités qui ont été promues au niveau de l'agriculture, de pisciculture. Ce sera financé par l'UNICEF. Nous avons une collaboration avec le Fonds belge de survie.
Sport, 0 but partout, c'est le score du match qui a opposé hier mercredi les Simbas de la RDC à l'équipe angolaise. La RDC qui réalise ainsi 4 points a la chance de se qualifier pour les quarts de finale. Mais cela dépendra des scores des dernières rencontres de ce groupe. Vous aurez plus de détails dans le journal de sport à 7h20, dont dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal, je vous retrouve un peu plus tard.